Rav, qu'est-ce que la mort? Voilà, commençons joyeusement.
Qu'est-ce que la mort? La mort est un accident de parcours qui a été pris en compte aussi au moment de la création. Quand je parle d'un accident de parcours, c'est-à-dire que on aurait pu parfaitement vivre notre vie sans cette notion de mort, puisque Akadosh Baruch Hu dit au premier homme, il n'est pas obligé de mourir pour goûter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aurait pu trouver une solution. La solution étant d'avoir consommé avant l'arbre de la vie, avant de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Étant donné que les choses ont été inversées, bien entendu, dans la pensée humaine, il y a aussi cette prise en considération, eh bien, la mort est arrivée, « Ibeyom acholcha mimeno mot tamut ». Ce qui fait que la mort aujourd'hui est la condition sine qua non pour arriver au tikkun de tout ce qui a été en réalité endommagé dans la création. Donc, on est obligé de passer par une étape qui s'appelle la mort, qui est ce qu'on appelle histalkut haneshama. La neshama va quitter le corps pour justement faire un travail de plusieurs allers-retours jusqu'à ce que le corps contenant cette neshama soit complété par la lumière divine d'une manière générale, pour compléter la lumière du monde, la lumière qui est manquante dans le monde, dans la création tout entière. Donc, on va faire des allers-retours, on va faire des voyages entre la vie dans ce monde et la vie dans un autre monde qui ne nécessite pas le corps. Donc, ces allers-retours s'appellent la mort dans ce monde, mais en réalité, c'est la disparition tout simplement du corps. La neshama, elle reste éternelle, et tous les corps qui ont été utilisés pour la même neshama lors de ces plusieurs retours, eh bien, seront récompensés au moment même de la résurrection des morts, c'est-à-dire que pour une neshama, on aura pu avoir 200 corps. Et donc, les 200 corps qui ont servi pour la même neshama vont être récompensés, chaque corps ayant terminé avec la neshama, avec le degré de neshama qui est venu se compléter, un degré spécifique que l'autre corps n'a pas subi. Tous les corps dans lesquels la neshama va revenir vont se reconnaître, savoir qu'ils ont été en fait des acteurs dans le même tikkun, pour la même neshama. Une neshama est tellement grande qu'elle ne s'habille pas seulement dans un corps, même pas dans les 200 corps que je viens de dire, mais c'est une neshama peut habiter une ville entière, puisqu'il y a en réalité seulement 600 000 âmes, des matrices d'âmes, et il y a des millions et des millions de corps. Et donc, ces 600 000 âmes, une âme peut se subdiviser et donc se dévoiler dans une communauté tout entière pour que chaque membre de cette communauté fasse un degré avec une facette de cette complétude pour laquelle le monde fut créé. Donc, ça, c'est la notion de mort aujourd'hui. Tout ceci aurait pu être évité lorsque Adam Harishon aurait mangé de l'arbre de la vie, et donc aurait terminé le tikkun, pas seulement de lui-même, mais de l'humanité, de la création tout entière, et faire venir le Mashiach, qui était en fait ni plus ni moins que lui-même. Donc le Mashiach aurait dû être Adam Harishon.
Arabe, il y avait une question de Anita Arabe. Anita, okay. Vous m'avez posé une question au début du cours. Bon, on la reposera. Mira, Malka, votre micro est éteint, Mira. Votre micro.
Vous m'entendez là?
Voilà, c'est.
Ouais. Alors, c'est, Alors, dans quel, puisqu'il y a tant de corps pour une chaman, à Triatamétine, dans quel corps cette neshama s'installe?
Je l'ai dit, j'ai répondu à la question. Avant que vous ne posiez la question, j'ai répondu, j'ai dit que tous les corps qui ont servi à cette même neshama vont revenir.
Mais la neshama, elle se partage alors dans ce sens-là.
C'est ce que je dis. Donc, oui. Elle se diffuse, elle ne se partage pas. Elle est unique. Et c'est comme si elle avait, c'est comme votre neshama qui s'habille dans tous les membres de votre corps. Ce n'est pas des parties de neshama qu'on a découpées. C'est une seule neshama qui se dévoile dans 200 membres de votre corps, et bien dans 200 corps différents. C'est pareil.
Oh, merci.
Arav, le temps n'est pas réel pour l'infini. Alors, à quoi sert l'existence, les doutes, etc. Et quel est le but du monde et le rôle de l'homme?
Il y a 10 questions là-dedans. Et donc, il faut une après l'autre. Le temps, c'est une existence créée au même titre que la création du monde. C'est-à-dire qu'avant la création du monde, si on peut dire avant, parce que le avant n'existait pas, donc il n'y avait pas de temps. Donc la notion de temps apparaît en même temps que la création. C'est-à-dire que dans la création du temps, il y a en réalité 3 créations essentielles. Le temps, l'espace et toutes les identités qui vont apparaître dans le monde. Ce qu'on appelle dans la Chassidut « Olam, Shana et Nefesh ». Hashan. Et donc, la création du temps est une création qui va permettre en fait le tikkun. Dans la Kabbalah, les deux remplissages du nom d'Hashem, le Shema et le Shem Ben, c'est en valeur numérique Zman. C'est-à-dire que le temps, c'est l'union du mâle et de la femelle, du Zahar et de la Nekeba. Donc, nous sommes mâle et femelle pour utiliser le temps et ne pas servir le temps, mais se servir du temps. Servir le temps, c'est de la Avodah Zara. Se servir du temps, c'est Olam HaTikkun. Et donc, il faut se servir du temps pour compléter et faire passer ce qui est au niveau supérieur dans le niveau recevant, dans le réceptacle, dans le Keli Kiboul. Et donc, la femme ou le côté féminin s'appelle Kli Kiboul, ustensile de réception, ce n'est pas péjoratif, hein? Ça peut être même chez un homme. À chaque fois qu'il est en mode de réception, il est en train de révéler son côté féminin, et chaque fois qu'il est en mode de partage, de don, de diffusion, eh bien, il touche son côté masculin. Donc, masculin et féminin changent de rôle au fur et à mesure de notre vie. Quand vous avez donné des enfants, même si vous êtes une femme, vous devenez masculin par rapport à vos enfants qui deviennent féminins parce qu'ils reçoivent. Et donc, c'est la même chose dans tous les domaines. Nous sommes masculins et féminins selon le rôle que nous remplissons au moment donné. Et tout ceci, c'est pour utiliser en fait le temps qui nous a été donné, le temps qui est la distance de l'action entre un point A et un point B pour donner en fait une notion d'espace-temps. Donc l'espace et le temps vont ensemble et l'homme agit dans cette arène d'espace et de temps. Donc les actions de l'homme se servent de l'espace et du temps pour faire descendre les valeurs de l'infini, du non-temps, dans cet espace-temps et donc révéler l'infini dans le fini.
Alors, question de Yochevet. Miku, votre micro est éteint.
Oui. Alors, je voudrais, bonjour, je voudrais approfondir, s'il vous plaît, la question des deux Chines. Et pour cela, est-ce que David, vous pourriez, s'il vous plaît, afficher le dessin, un dessin Yochevet, des deux Chines?
Oui. Cette question, elle ne concerne pas tout le monde. Je vous propose de la poser en privé avec le Rav parce que ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Si vous avez une question générale, je sais que ça vous tient à cœur, mais on aimerait poser des questions pour tout le monde. Voilà. Donc, si vous avez une question générale, sinon on passe à Félicia.
Dans ce cas, je passe.
Génial. Félicia, vous avez une question?
Merci. Oui, une question qui me travaille ces derniers temps, c'est comment ça se fait que je peux ressentir ces liens à des neshamot qui ne sont pas là.
Des neshamot. Parce que vous êtes une femme qui n'est pas hermétique, qui a souffert dans sa vie, qui est devenue de plus en plus sensible et presque, j'allais dire, à fleur de peau. Donc, votre corps fait de moins en moins obstacle à votre neshama. Et donc, la perception qu'on devrait avoir tous et qu'on a malheureusement seulement après la mort, vous avez le sroute, le mérite, parce que vous avez travaillé, d'avoir cette perception de votre vivant. Donc, vous sentez en fait au-delà du corps, c'est-à-dire que vous avez fait un travail de purification de votre corps à tel point qu'il ne fait plus obstacle. Donc, vous avez la possibilité d'être perméable à ces informations qui sont secrètes. C'est aussi une partie de ce que font les sages de la Kabbalah. Donc, vous avez eu ce mérite, Baruch Hashem. Utilisez-le à bon escient.
Alors, la deuxième Shaila, est-ce que j'ai, ces derniers temps, j'ai du mal à me... à la tefila, je n'arrive pas.
Parce que vous avez une information qui est tellement grande que la tefila, pour vous, c'est un tzimtzum que vous ne supportez plus. Et donc, étant donné que le tzimtzum, et je mets des mots sur votre ressenti, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est moi qui mets des mots, c'est tout. Donc, si je me trompe, vous me le dites. Si c'est vrai, vous devez le sentir immédiatement.
Je le sens, oui, je le sens. Okay, alors, pour ça, je peux
merci
plus...
de confirmer alors ce que je suis en train de dire. Merci, c'est tout simplement merci. Parce que vous êtes tellement large, tellement au niveau du klal, que le niveau du prat, presque à la limite, ne vous intéresse plus. Vous avez dépassé ce stade. C'est comme au moment de la traversée de la mer à la sortie d'Égypte, tout le monde a commencé à prier et à Kadosh Baruch Hu dit, c'est pas le moment de prier. C'est le moment d'agir, de traverser. La prière, dans cette condition, devient une limite. Et vous ne supportez pas cette limite à ce moment-là. Donc, il faut continuer de prier. Vous faites ce que vous pouvez, mais ne vous faites pas de soucis parce que vous n'avez pas de kavana ou quelque chose comme ça. Au contraire, vous êtes monté de niveau.
Alors, question un peu plus générale. Qu'est-ce que la liberté ?
Qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est de servir l'infini, tout simplement. Ce n'est pas de faire ce qu'on a envie, c'est de servir le roi de la liberté. Le roi de la liberté, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le champion du monde de la liberté. On l'appelle Chérout. Il est Chérout. Donc, si tu sers la liberté, si tu sers Akadosh Baruch Hu, en fait, tu ne fais que servir la liberté par excellence. Donc, tout serviteur de l'infini est serviteur de la liberté et il vit dans la liberté parce qu'il est selon les règles de la liberté absolue. Et donc, tout ce qui est inverse à cette liberté, eh bien, ça devient en réalité quelque chose qui le limite, qui le bloque. Et c'est pourquoi les gens qui se trompent en servant à Kadosh Baruch Hu, ils ont l'impression d'être en prison. Mais en réalité, ce n'est pas une prison, c'est servir la liberté par définition. Sortir d'Égypte, c'est justement se libérer de cette prison pour devenir quelqu'un de libre, pour servir la liberté absolue.
Alors, question de Yael Choujane. Yael.
Oui, bonjour et merci. Je reprends pour approfondir la question de la personne d'avant. J'ai le même ressenti et j'ai une contradiction intérieure. C'est que des fois, quand je prie, je me sens en lien avec toute la création, les fleurs, les nuages, et que quand je rentre des fois dans une synagogue, dans cette période de sensibilité, je me sens tellement enfermée que des fois, je pars en courant. Mais j'ai la contradiction de vouloir servir Hachem en allant à la synagogue avec des humains, avec mes frères juifs, et des fois, de me sentir tellement enfermée que j'étouffe.
Alors, votre sentiment est aussi... une preuve d'élargissement de votre être. vous ressentez en réalité le besoin d'être beaucoup plus grand que ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui l'impression d'être. Et effectivement, lorsque les choses ne se font pas d'une manière beaucoup plus vraie, beaucoup plus large, eh bien, certaines conditions de prière nous étouffent plutôt qu'autre chose. Et donc, vous ne devez pas vous sentir mal à cause de cela. C'est tout simplement parce que vous cherchez quelque chose de plus authentique, de plus vrai, et que vous sentez en réalité le blocage parce que malheureusement, les choses se font d'une manière, j'allais dire, rituelle, qui n'est pas profonde, qui n'est pas tout à fait dans la conscience de la vérité. Bon, c'est le niveau des gens. On ne peut pas faire autrement pour l'instant, si ce n'est que par éducation, c'est-à-dire par l'étude. Mais ce que vous êtes en train de ressentir, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, vous devez être très heureuse de ce sentiment. Ce n'est pas la peine de jeter la pierre sur tous ceux qui ne sont pas à ce niveau. Il faut prier pour que tout le monde arrive à cela.
Non, c'est que des fois, je me sens comme une faute de ne pas aller à la synagogue. Me dire, mais mince, il faut que j'y aille.
Je comprends, mais parce que vous ressentez que c'est plus un blocage que qu'un dévoilement. Vous devez être lié à votre peuple. Et tout en restant, le mieux à faire, c'est d'essayer d'aller à la synagogue et d'arriver à ressentir ce que vous ressentez quand vous êtes seul.
Merci beaucoup.
Dava.
Rav, question de Dan. Dan Zarmate.
Bonjour Rav Yoel.
Shavua Tov.
Je reviens sur une question un peu plus terre à terre. Sur le premier cours qu'on a fait le 4 septembre, vous avez parlé de quatre mondes. Alors, c'était Atzilut, si je ne me trompe pas, Livro, Litzor et Atzia. Si vous pouvez me donner un peu plus d'informations, parce que je suis un peu… Enfin, ce n'est pas clair pour moi.
Alors, les quatre mondes sont les quatre mondes de, qui servent en fait de filtre entre l'infini et le fini. Et le premier monde est très proche de l'infini, donc il s'appelle Atzilut, de la racine en hébreu « chez lui », « Etzlo ». Le deuxième monde, Beria, qui veut dire textuellement sortir dehors, Bara. Le troisième monde, c'est le monde où commence à se mettre, donc, puisque je suis sorti de la proximité, maintenant j'ai un monde où je peux choisir entre le bien et le mal, donc j'ai le bon penchant et le mauvais penchant, ça s'appelle Yetzer, donc Yetzira, mais c'est en même temps le monde où je peux façonner ma vie, donner une direction à ma vie. Et le dernier monde, c'est le monde de l'action elle-même, c'est-à-dire de la mise en action de ces pensées célestes les plus élevées, donc de l'application, de la traduction du monde de l'infini dans notre monde ici. Donc ça s'appelle Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Et c'est correspondant aux quatre lettres du nom de Dieu et celui que l'on voit, le tétragramme, et celui que l'on prononce, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Vous avez aussi quatre lettres. Donc ces quatre degrés montrent la totalité de la création pour arriver de l'infini au fini.
Et ça, c'est lié à sa propre personne? Ces la quatre mondes qu'on doit traverser?
La propre personne de qui?
De moi, par exemple? Enfin, de chaque âme.
Tout à fait, vous devez être porteur de ces quatre mondes. Dans votre pensée, vous êtes dans Atzilut. Dans votre cœur, vous êtes dans Beria. Dans vos sentiments, vous êtes dans Yetzira. Et dans vos actions, vous êtes dans Asiya.
D'accord.
Simultanément, dans les quatre.
Alors en même temps, ce n'est pas des étapes. C'est en même temps,
c'est ça. Ça fait en même temps, il faut vivre le tour. C'est pour ça qu'on dit Adonai Echad. Si vous êtes dispersé, malheureusement, c'est une maladie.
Ah, d'accord. C'est l'entité de la personne entre le corps et l'âme.
Exactement.
Je peux vous poser une autre question, ça ne vous gêne pas ?
Vas-y, vas-y.
Question plus terre à terre. Quand on parle d'un retour en Israël, géographiquement, ça correspond à quoi ? Bon, on a Jérusalem, certes, mais ça s'étend jusqu'où ?
Retour en Eretz Israël, c'est retour aux frontières. Alors, il y a plusieurs frontières dans la Torah. Les premières frontières sont les frontières divines qui n'ont pas encore été atteintes par l'homme. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans les frontières finales, définitives de notre terre. Cependant, il y a d'autres formes de frontières, tous les endroits où il y a eu conquête du peuple juif. Ça va devenir en fait la terre d'Israël et donc ça va avoir la même valeur. Cette terre géographiquement est limitée, effectivement, et on pourra mesurer les vraies frontières de notre terre dans pas longtemps, au moment de la révélation du prophète Eliyahu. Eliyahu Hanavi va aller avec les sages d'Israël, avec les nouveaux prophètes d'Israël qui vont se lever et qui vont aller déterminer la frontière. Là où je reçois et j'entends la parole divine, c'est encore la terre d'Israël. Dès que je dépasse, ne serait-ce que de 20 cm, et que je n'entends plus la parole divine, c'est que je suis en dehors de la terre. Donc je vais tirer une ligne à l'endroit même de la perception de la prophétie, donc de la parole divine.
Mais aujourd'hui, géographiquement, ça correspond à quoi à peu près ?
Jusqu'à la Syrie, jusqu'à Damas.
C'est énorme.
Voilà, c'est énorme, c'est beaucoup plus grand que ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une petite cravate qui va s'élargir au moment du dévoilement messianique. Il y aura malheureusement ou heureusement des guerres de reconquête des terres d'Israël.
Alors, question de Eric.
Merci à vous.
Eric Strack.
Shalom Eric.
Alors, votre micro, toujours pareil, le micro est éteint, il traque.
Alors, donc, bonjour Rav et Shavua Tov.
Bonjour.
Alors, en fait, je voulais revenir sur une question qui m'a été suscitée par les questions sur la prière.
Oui.
C'est vrai que, alors moi, j'ai eu cette problématique d'aller dans une choule et de ne pas ressentir. Alors, parfois, il faut juste changer de choule.
Si je puis me permettre. En plus, si c'est une choule, c'est encore pire, quoi.
Et par contre, au Hachem, aujourd'hui, ça va. Mais c'est vrai que quand, par moment, je ne peux pas y aller, je dois faire ma tefila tout seul, je ressens encore beaucoup plus de force et de profondeur quand je suis seul. Alors, la question que je voulais poser, c'est est-ce que je dois privilégier quand même la prière en minyan?
Il faut toujours privilégier la prière en minyan tout en essayant de retrouver ce sentiment qui n'est pas en réalité seul, parce que si vous avez ressenti dans cette solitude cette puissance, c'est parce que vous vous êtes relié à l'essence même de la nation. Prier en minyan, c'est pas prier avec 10 hommes, c'est prier en fait avec le dévoilement de l'âme collective d'Israël, qui ne passe que par le chiffre 10, pour une raison secrète. Et donc, quand vous êtes parmi 10 personnes, essayez de retrouver ce sentiment de profondeur qui est le peuple tout Israël, et pas seulement les 10 personnes qui sont autour de vous. C'est pour ça que nous disons Kadosh, c'est-à-dire que la sainteté supérieure arrive à descendre sur terre quand il y a 10 hommes. Donc, on dit Kadosh, 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 parce qu'on est 10. Ça veut dire que la Kedusha dépend de ce nombre, mais ce n'est pas forcément les personnes qui sont là. Elles sont porteuses de quelque chose de beaucoup plus grand que vous avez apparemment ressenti quand vous êtes seul. Donc, ressentez-le, même avec Minyan.
Merci beaucoup.
Question de Zachary.
Zachary.
Merci beaucoup. J'ai une question par rapport à ce qu'on a lu dans la paracha cette semaine. Je me rappelle qu'on avait étudié le nom de Hachem, Yud Kev Vavke, et on avait parlé justement des quatre mondes. Et le Eye Hacher Eye, à quoi ça se relie du coup? J'ai essayé d'étudier le Ramban, mais je n'ai pas tout compris ce qu'il racontait.
Tout simplement, le nom de Shem Havaya, le tétragramme, Yud Kev Vavke, au futur, c'est Eye. Donc en réalité, le tétragramme, c'est au présent, Yud dans le Hové. Yud Kevavke, c'est le Yud dans le présent. Et Ehiye, c'est le même qui parle, qui dit « Demain, je serai ». Traduction, « Je serai toujours avec vous par ce nom-là de Yud Kevavke ». Je serai avec vous dans cet exil comme dans un autre exil. Je vous accompagnerai tout le temps, je ne vous abandonnerai jamais. Donc au niveau de la Kabbalah, on dit que le nom de Ehiye, c'est un vêtement pour le nom de Yud-Ké Vav-Ké, un des vêtements. D'accord ? Ehyé Shelachani Elechem, c'est Ehyé qui m'a envoyé vers vous. Mais c'est toujours Shem Havaya, c'est toujours le tétragramme qui est à l'intérieur de tous les noms. Même quand on se dévoile, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile par El Shaddai, il dit avant Ani Yud-Ké Vav-Ké, je suis le tétragramme, mais pour l'instant je me dévoile à toi par tel nom. C'est-à-dire, je me suis habillé avec tel vêtement pour telle circonstance. Mais c'est toujours le tétragramme, c'est la racine, c'est la matrice de tous les noms.
Ok, alors, une question. Rav, vous parlez souvent de Géoula et de Mashiach, pouvez-vous nous donner plus d'explications ?
La Géoula, c'est tout simplement le dévoilement des valeurs de l'infini dans ce monde d'une manière assez complète qui a déjà fait basculer la balance. C'est-à-dire qu'il y a comme une balance, les valeurs de ce monde cachent la valeur divine. Au moment où les valeurs divines se remplissent l'un des côtés de la balance, eh bien, la Géoula devient de plus en plus dévoilée. Donc la Géoula n'est pas une date seulement, c'est beaucoup plus un processus. D'ailleurs, la création du monde s'est faite progressivement, justement pour nous prouver que le dévoilement de Dieu dans la matière se fait progressivement. Donc la Gemara, dans le Talmud de Jérusalem, va nous dire que la Géoula ne se fait pas d'une seule traite. Ce n'est pas un jour on se lève et on entend le chauffard, c'est tout doucement une démarche, une accélération, et chaque jour est une étape de plus dans le dévoilement messianique. Alors il y a des grands moments, comme le retour d'Israël sur sa terre, la déclaration de l'État d'Israël, ce sont des moments historiques énormes, et il y aura bientôt un autre moment historique énorme, comme le dévoilement de l'homme porteur du message divin qu'on va appeler le Mashiach, qui va être en réalité comme une antenne. Ça sera une antenne de réception, parce que le poste radio existe déjà, il faut juste une antenne pour capter l'émission. Donc le Mashiach va jouer ce rôle d'antenne.
Question de Meira.
Oui, Laura, est-ce que, deux petites questions, un jour de la création, c'est comme un jour de nos jours, c'est 24 heures?
Non. Un jour de la création, c'est d'abord, il n'y a pas une... C'est une mauvaise traduction. C'est comme si vous étiez en train de me dire que Dieu a créé le monde en 6 jours. En fait, ce n'est écrit nulle part. C'est qu'il a créé 6 jours. C'est autre chose.
Et c'est quoi ces 6 jours? C'est combien d'heures ces 6 jours?
C'est pas des heures. Il a créé 6 entités que nous appelons des jours. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire qui passe, ces 6 degrés changent de forme. Ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire, un jour valait 1000 ans. À un moment donné de l'histoire, eh bien, un jour, c'est 24 heures. Mais en réalité, c'est la donnée qui est importante, c'est un jour. Il y a une correspondance, bien entendu, entre, par exemple, le dimanche, donc jour 1, et le premier millénaire, 1000 ans. Donc, ce qui s'est passé jour 1 de la création du monde, eh bien, vous allez le retrouver dans les premiers 1000 ans de la création. Donc, il y a une correspondance. La même chose au niveau de la vie de l'homme. Yemesh noten ubaem shivim shana. Pourquoi la Mishnah nous dit que nous vivons 70 ans, tout le reste, c'est un bonus, c'est autre chose? Eh bien, tout simplement parce que les premières 10 années correspondent au premier jour, donc au premier 1000 ans, les deuxièmes au deuxième jour, au deuxième millénaire, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que nous sommes, en gros, dans le 6e millénaire, donc dans le 6e jour. Donc, nous sommes très proches de l'entrée du Shabbat du monde. Donc, c'est une révélation, c'est un repos, c'est le dévoilement de la liberté dont on a parlé tout à l'heure, donc de l'infini béni soit-il, qui est lui-même la liberté par excellence.
Oui, mais alors, c'est en fait, ça nous induit en erreur quand on dit « Cheshet Yomé Abriya ». ce n'est pas ce que ça veut dire.
Exactement. Ça ne nous induit pas en erreur, au contraire, ça nous élargit les possibilités. Au lieu de tomber dans l'erreur comme si Dieu a utilisé 6 jours pour créer le monde, c'est exactement l'inverse. On dit que Dieu a créé 6 degrés qui s'appellent des jours.
Oh, oui. Et alors, encore quelque chose, à propos de Geoula, vous dites que la Geoula est un processus qui s'étend. Qu'est-ce que c'est une Geoula pratique, quand on prie pour la Geoula pratique?
Une Geoula pratique, c'est justement d'avoir réussi à révéler les choses pour lesquelles je suis venu dans ce monde, dans mon propre être individuellement parlant. C'est-à-dire, j'ai réussi à vivre la véritable vie pour laquelle j'ai été créé, façonné.
Comment savoir si c'est ça?
Mais tant que vous vivez, c'est que vous avez encore des choses à faire, donc ne vous cherchez même pas à comprendre, continuez à travailler. Tout simplement, il faut continuer à développer, à dévoiler, à révéler. Si aujourd'hui, dans le cours que vous êtes maintenant, vous avez révélé encore une chose, ça vous prouve que ce matin, vous n'étiez pas encore complète. Et moi non plus.
Ok, c'est bien, ça donne de l'espoir.
Exactement. On doit continuer, on a affaire à l'infini, donc c'est très très grand.
Oui, question de Rabbin Messant. Monsieur Messant, je vais allumer votre micro.
Zakatia Kaudarav, et merci pour tous ces enseignements.
Shalom,
je
shalom.
Je reviens un peu à la création. Après Bereshit Bara Elohim, en nous voyant là-bas qu'il y a Haïta Tobohu, et Akadosh Baruch Hu va dire Yehi Or. Oui. Et alors, on voit que c'est le Yud qui a engendré le Hé, et après qui est revenu dans le Yud, et le Vav vient après Vayihor, et c'est ça qui va être la lumière.
Okay.
J'ai beaucoup apprécié un de vos cours où vous avez dit que c'est le Yud d'abord, et après est venu le Hé, et est venu le Vav, qui va recopier, au fait, l'idée qui est dans le Hé, qui est la Bina. Oui. Dans la fille qui est Barout. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous reprendre ça un peu pour nous...
Okay. Pour ben, tout simplement, aujourd'hui, le nom que nous connaissons, c'est celui-ci. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous le voyez.
Non, bon, on va le violer, mais bon.
Alors là, il faut rapprocher de votre visage. Voilà, c'est bon, nickel.
Oui, ça va. On voit un peu.
À la fin des temps... Il y aura ce nom-là. Yutke, c'est-à-dire Bayomahou, il sera. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ben, que la lettre Yud, c'est la matrice, donc elle est au-delà des formes, avant les formes. C'est un point avec lequel je peux faire toutes les formes du monde. Ça veut dire que le début de la création, c'est un point de pensée divine, qu'on appelle la Chochma, et que la deuxième lettre, c'est déjà la mise en relief. C'est comme si j'avais créé un cube. C'est-à-dire que la lettre Hé s'inscrit dans un cube, c'est-à-dire j'ai donné un volume.
Mmh.
À ce point qui est à l'intérieur du volume. Donc, la lettre Hé est une mise en forme, est une mise en volume de la lettre Yud, qui est le point initial. Donc, ça va ressembler à la graine de semence de l'homme et à la femme, tout simplement, qui arrive à mettre en forme, en relief, le premier point. Vous voyez que le Hé s'inscrit à l'intérieur de ce cube, c'est-à-dire ça va donner une longueur, une hauteur et une profondeur, comme le X, le Y et le point dans l'espace.
Exactement.
Voilà.
Arav, question de Ariel. Shavua Tov, lorsque je regarde les références externes du Midrash Rabba, dans Masoret HaMidrash, je vois parfois indiqué Yalkut. Ça correspond à quoi? Yalkut Shimoni, Yalkut Reuveni, Toda Rabba.
Ce sont tout simplement des midrashim qui correspondent à certains livres des midrashim plus ou moins anciens, il y a des midrashim qui correspondent plus au livre de Bereshit, il y a des midrashim qui correspondent au livre de Dvarim, et il y a des midrashim anciens ou plus récents, les midrashim n'étant là que pour nous donner en réalité des paraboles, et que le midrash lui-même vient nous raconter une histoire que je dois comprendre à l'intérieur de laquelle l'idée motrice de la chose en question, qui me raconte l'arrière-plan de ce qui s'est passé. Par exemple, je ne sais pas moi, quand Moshe Rabbeinu a vu dans notre paracha le buisson ardent, eh bien le Midrash va nous raconter des choses que la Torah n'a pas voulu garder pour l'instant. C'est que Moshe a couru après une chèvre et qu'il est rentré malgré lui dans un degré. Et donc, il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi a-t-il couru après une chèvre? Eh bien, tout simplement parce qu'il est soucieux de ses brebis. Donc, il est apte à devenir le conducteur du peuple d'Israël. Et c'est en étant le conducteur du peuple d'Israël qui se soucie de ses brebis qui va devenir le berger, pas seulement des brebis, mais du peuple. Donc, Akadosh Baruch Hu veut nous donner des images et les sages nous donnent par ce midrash les qualités de Moshe Rabbeinu.
Arav, question personnelle. Le Rav Cherki, il n'est pas là à ce cours-là parce qu'il est en train d'organiser le congrès international des Bnei Noir à Prague. Et la question, c'est quelle est, nous, notre relation dans la Kabbalah, en tout cas, sur les Bnei Noir? Est-ce que la Torah qu'on étudie en ce moment, elle est pour tout le monde entier, elle est que pour les juifs, entre guillemets, ou est-ce que c'est une compréhension qui doit être internationale? Où est-ce que vous vous situez dans toutes ces marlokotes?
La Torah, d'une manière générale, est passée par le peuple d'Israël, parce que nous sommes le vecteur de la parole divine, mais pour arriver aux nations du monde. Et donc, je m'inscris totalement dans cette action du Rav Cherki, Shlita, qui porte maintenant la lumière d'Israël aux nations du monde. La Kabbalah est justement l'antithèse de la religion. Nous ne sommes pas des religieux. Et la religion a massacré, déformé le peuple d'Israël. Et la Kabbalah vient remettre et guérir cette notion de peuple d'Israël. Et donc, la religion n'est pas Israël. Israël n'est pas une religion. Et donc, nous sommes là pour être, d'une manière générale, cosmopolite. Nous sommes universels. La Torah de Dieu est universelle. Ce n'est pas une religion. C'est tout simplement les règles de la vie tout entière. La Torah n'est pas une religion. La Torah, c'est la vie. Etz Chaim. Dans la Torah, il y a des mitzvot. Mais il ne faut pas confondre la Torah et les mitzvot. La Torah, c'est une chose. Les mitzvot, c'est encore autre chose. C'est un moyen pour arriver à la Torah, à tel point qu'à un moment donné dans l'histoire, les mitzvot seront abandonnés, effacés. Il n'y aura plus de mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on vivra les choses naturellement, intuitivement. Et donc, étant donné qu'il s'agit de la vie, bien la vie ne touche pas seulement Israël, elle touche les nations du monde. Et je vais même vous faire une révélation, il va falloir bientôt faire un congrès pour les animaux, parce qu'eux aussi vont recevoir la même lumière de vie. Il y a une seule lumière qui fait vivre le tout, chacun la recevra à son niveau. Donc il va falloir s'occuper et d'Israël, et des nations du monde, et de tous les animaux, et je vais plus loin, de tous les végétaux, et je vais encore plus loin de tout le minéral. Donc tout montera de niveau.
Alors, question de Rabbin Messant.
J'ai tendance à faire une lecture de toujours de la première phrase de Bereshit.
Oui.
Où quand je lis Bereshit bara Elohim, je prends comme si les trois as étaient là, l'as de droite, l'as de gauche et l'as central, comme le Keter.
Oui.
C'est-à-dire bara c'est le Keter et pour moi Bereshit c'est le Chokhma et Bina c'est le l'as de gauche. Et après, quand je fais être Hachamayim et être Ares, j'ai tendance à croire que c'est le Vav qui est Hachamayim, que c'est le Vav qui fait Hashamayim et que le He, effectivement, correspond à la terre. Mais je n'ai pas de lecture dessus que j'ai lu quelque part, mais c'est des choses qui me viennent à l'idée comme ça. Et parfois, je me dis, est-ce une erreur ou est-ce que je retrouve le Yud Kei Vav Kei dans la première phrase de Bereshit Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz?
Vous êtes tout à fait dans la vérité. Le Yud Kei Vav Kei que vous voyez ici représente en fait le Bereshit. Bereshit est là. Bereshit. Bara, c'est le monde de Bria. Shamaim, c'est le Vav. Et Eretz, c'est le He. Donc en réalité, vous avez touché le point essentiel. Vous avez raison. Dans le premier verset de la Torah, il y a Bereshit qui est la Chochma. Bara, c'est la Bria. Elohim, c'est justement le nom de Bria qui va faire sortir Shamaim, Vav et Eretz, la lettre He. Vous avez tout à fait raison.
Rav, question de Yochevet.
Et y a-t-il un lien, et lequel, et comment le comprendre, entre le Tzimtzum et le processus de dévoilement au travers de 6 degrés qui correspondent aux 6 jours de la création?
Je n'ai pas compris et votre question. Est-ce que vous pouvez répéter? Excusez-moi, je n'ai pas
entendu. Y a-t-il un lien, et si oui, comment le comprendre, entre le Tzimtzum?
Oui.
Et les 6 degrés de la création, les 6 jours, qui aboutissent au Shabbat, qui est le retrait d'Akadosh Baruch Hu du monde de l'action?
Eh bien, c'est tout simplement le dévoilement du Tzimtzum, c'est-à-dire que le Tzimtzum se fait en plusieurs phases. Tout à l'heure, nous avons parlé de 4 phases centrales au niveau des mondes, mais quand je rentre et que j'agrandis en fait, comme si j'agrandissais avec une loupe ces écrans, eh bien il y en a 10 qui se divisent en 2 parties, 3 niveaux supérieurs et 7 niveaux inférieurs. Ces 7 niveaux inférieurs font partie encore de ce Tzimtzum, c'est-à-dire que chaque séphira va limiter, va mesurer, va habiller les valeurs supérieures, donc ça s'inscrit exactement dans le même degré, et ce Tzimtzum apparaît sans arrêt dans tout ce que nous faisons. Même moi, maintenant, en train de donner ce cours, je suis obligé de faire en moi certains Tzimtzumim pour ne pas utiliser des terminologies qui ne seront pas comprises. Donc, je dois habiller ma pensée et mes réponses avec des vêtements de notions que vous pouvez entendre. Ce n'est pas que vous êtes moins que moi, c'est tout simplement qu'il y a un langage à apprendre et que j'ai un dictionnaire donc, qui représente certaines choses, mais si vous n'avez pas les codes de ce dictionnaire, eh bien, je vous traduis ces codes-là différemment. Mais en réalité, on parle tous le même langage. Je peux m'asseoir maintenant avec un scientifique et avoir le même langage. On parlera seulement moi avec ma langue kabbalistique et lui avec sa langue scientifique. Et on dira les mêmes choses. La même chose avec un musicien, il y a 7 notes, c'est la même chose, c'est la même raison. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Après, vous revenez à un do, dans une gamme inférieure ou supérieure. Mais c'est exactement pareil. La même chose au niveau des couleurs, la même chose au niveau de tout ce qui se passe dans le monde, c'est toujours la même échelle de valeur qui se répercute de partout. Et tu vas utiliser ton langage pour parler, alors que l'autre utilisera un autre langage. Même pour les sports de combat, même pour... Dans tous les domaines, vous allez retrouver ces degrés. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que je peux traduire en fait mon étude de Kabbalah à la vie. Et c'est ça le but, c'est d'arriver à vivre mon étude, et non pas seulement des études sur texte. Le texte n'est qu'un prétexte.
Alors, il reste 15 minutes, question de Yael Chouchan.
Shalom Yael.
Oui, de nouveau shalom. J'ai une question qui est récurrente dans ma vie et je me demande si au niveau de la Kabbalah, ça pourrait m'ouvrir d'autres horizons pour mieux y répondre et mieux le vivre.
Et on en va fait, espérer ensemble.
C'est la question des relations humaines et je pense qu'elle est globale à beaucoup de gens. En fait, il y a une aspiration d'aimer toutes les personnes, tous les juifs, comme il est dit, comme quand on commence la prière, comme Avraham Avinu, d'accéder à cet idéal, et même chaque créature. Et puis, il y a un besoin de se protéger de ce qui encore peut faire mal, peut accrocher, peut bloquer mon chemin. Et je ne sais jamais comment me situer vraiment justement entre ces deux tendances.
Ben, c'est une question qui est globale, effectivement, et qui est très réelle, et qui est très vraie. Il faut sans arrêt faire le tri, sans arrêt faire le nettoyage dans votre vie entre ce que vous devez faire et ce qui, en fait, vous dérange pour avancer dans ce cheminement. Alors, il n'y a rien de clair d'office. Les choses doivent être triées. De la même manière que vous avez décidé maintenant de rentrer dans ce cours et que d'autres personnes ont décidé de ne pas y entrer. Et donc, vous faites partie de ce Zoom. Ça veut dire que vous avez fait un tri dans votre tête, dans votre esprit, pour faire avancer votre vie. Donc, vous êtes allé dans un chemin. Dans ce chemin-là, il va y avoir aussi des forces qui vont essayer de vous embêter, des bruits, des fritures dans l'émission, des coupures d'Internet, des coupures d'électricité, ou bien des moments où vous êtes égaré au niveau de votre esprit. Là aussi, il va falloir faire un travail pour sans arrêt revenir. Au moment où je fais les choses, j'ai un moyen de vérification. Est-ce que je suis sorti finalement de la halakha ou pas? Et donc, nous avons des livres de halakhot. Si je suis toujours fidèle à la loi générale, eh bien, je suis sur le bon chemin. Dès que je vois qu'il y a une certaine déviation, il faut que je fasse attention pour y revenir dans mon bon chemin. Donc, toute notre vie, c'est un travail de tri, ce qu'on appelle des birurim, et ça fait partie aussi de ce que vous allez recevoir comme récompense par rapport à tous les tris que vous avez faits dans votre vie. Donc, il s'agit de milliers de tris par jour.
Mais en fait, le questionnement, il est, ben, j'ai envie d'accepter chacun comme il est et d'accueillir des gens à Shabbat, à Tati, dans ma vie. Et des fois, ces personnes-là, elles me font écran par certaines conversations, par certaines conceptions, à un idéal dans la prière, dans l'étude. Et je ne sais pas, est-ce que c'est égoïste de les mettre de côté, ces personnes? Est-ce que c'est...
Ça dépend s'ils sont contre la vie ou pas. Est-ce que vous allez inviter chez vous à un repas, même pas si c'est Shabbat, un jour de semaine, un terroriste? Non, vous n'allez pas l'inviter. Donc, il n'a pas raison. Donc, vous n'allez pas vous dire, lui aussi, il a raison parce qu'il défend des idéaux. Tout simplement parce qu'il est contre la vie, tout simplement. Il tue la vie. À partir du moment où quelqu'un est anti-vie, eh bien, il n'est pas pris en compte. Il faut le sortir de l'équation. Mais tout homme, toute femme qui est pour la vie, qui est vivant, bien sûr que je peux l'accueillir chez moi à Shabbat, bien sûr que je peux manger avec lui, je peux échanger des idées avec lui, parce que son but, c'est justement de maintenir la vie et même de l'amplifier. Donc, je ne dois pas avoir peur de lui.
Raph, question Françoise. Que pensez-vous du mouvement anti-spécies? Alors, je vous explique, c'est les animaux qui doivent être considérés comme plus élevés qu'ils ne sont. Donc, il faut les protéger, plus manger de viande, parce qu'ils ont une conscience, etc., qu'ils ont un avenir, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements-là, Raph?
Ben, c'est des mouvements qui ne sont pas nouveaux, ce sont des mouvements qui sont très anciens et qui, en réalité, montrent intuitivement, il y a une reconnaissance que l'animal d'aujourd'hui n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Donc, effectivement, l'animal devra un jour reprendre sa véritable hauteur, ainsi que les végétaux, comme j'ai dit tout à l'heure, même les nations du monde vont devenir mon peuple, dit Akadosh Baruch Hu, et Israël va devenir encore un autre niveau qui s'appelle Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire nous allons tous jouer le rôle de prêtres, des nations du monde qui vont devenir comme le Ham Israël, des animaux qui vont monter au niveau des nations et des végétaux qui vont être comme au niveau des animaux d'aujourd'hui. Donc, il y a une élévation de toute la vie, et tout simplement parce que le premier homme a été créé avec une autre hauteur et qu'il est tombé, qu'il a fait tomber avec lui tous les éléments de ce monde. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas encore fidèle à sa véritable place. Mais ce n'est pas seulement les animaux, c'est nous aussi. Donc, au lieu de s'occuper seulement des animaux, il faut s'occuper aussi de l'homme qui n'est pas sa véritable hauteur et qui ne vit pas sa vraie vie.
Mais rassurez-nous, Arav, on peut continuer à manger de la viande en étant continuer d'étudier et manger de la viande.
Pour l'instant, nous mangeons, nous consommons de la viande, mais il arrive un temps où effectivement la viande ne sera plus consommée. Ça s'appelle le Chazon HaTzimchonut. Le Rav Kook a écrit un livre où effectivement, à la fin des temps, nous ne mangerons plus de la viande parce qu'on n'est pas censé vivre sur le compte d'une autre forme de vie. Donc nous allons vivre d'autres choses.
Question arabe de Evelyne Garibaldi. Evelyne Chalam. Votre micro, Madame Garibaldi.
Voilà, c'est bon. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à... Je pose une question, Shalom, peut-être un peu étonnante, mais il y a la deuxième parole dans l'Exode, donc quand il est dit que je suis un Dieu jaloux, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris.
Ani El Kana. En fait, vous ne comprenez pas parce que vous traduisez la Torah en français. C'est le seul problème.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la traduction.
Donc, vous vous êtes bien dit. La traduction est une trahison. On ne peut pas parler de jalousie. En réalité, on parle d'une kanaout, c'est-à-dire d'un zèle. C'est-à-dire, je suis un Dieu qui réalisera sa véritable pensée du départ. Il n'y a rien qui m'arrêtera. C'est ça que ça veut dire.
Oui, donc je suis indestructible, en fait. Je suis...
Tout à fait. Il n'y a rien qui peut arrêter le mouvement que je représente, le mouvement de vie que je représente. Ça veut dire qu'avec notre niveau, on va dire rien n'est plus fort que la vie. Ça n'existe pas, même pas la mort.
Okay,
donc la vie gagnera la mort à la fin des temps. Donc je fais une boucle avec le début du chiot.
Alors, question de Yitzhak.
Oui, bonjour, rebonjour. Je te rassure, David, il y a des viandes synthétiques maintenant, tout va bien. Deux questions très courtes sur la Kabbalah. La première, c'est la Kabbalah évoque beaucoup, et vous aussi d'ailleurs, de noms d'Hachem. Est-ce que parmi eux figure le Shem HaMeforash dont on entend souvent parler?
Le Shem HaMeforash, c'est le nom, le tétragramme. Seulement, vous ne savez pas le prononcer, c'est tout. Il y a des remplissages de ce nom. Et le remplissage de ce nom, c'est un nom qui a 72 degrés. Et le Shem HaMeforash, il est déjà à l'intérieur, il est déjà codifié. Donc, bien entendu, il n'y a rien d'autre que des noms. Tout est nom. Il n'y a rien d'autre que des noms. C'est d'ailleurs les noms qui sont tombés en Égypte. Ce sont les Shemot qui viennent en Égypte. Donc, en réalité, lorsque tu as récupéré les noms, tu es sorti de ta prison. Donc, effectivement, le nom d'Hachem, ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, c'est déjà un nom que nous avons, mais que nous n'avons pas le droit de prononcer. Il était prononcé à certaines périodes de la vie, notamment au moment de Yom HaKippourim, mais ce n'est pas l'homme qui le disait, il sortait de la bouche de l'homme. Shehaya Shem HaMeforash yotze mipi Kohen Gadol. Pas que le Kohen Gadol disait le nom. C'est-à-dire, quand je suis un véritable ustensile de réception et de perception, ce nom me traverse et sort de ma bouche et je suis capable, en réalité, de tout faire parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ces capacités de base que nous avons malheureusement perdues et que nous allons bientôt retrouver.
Et la deuxième question rapide, c'était est-ce que vous pouvez juste résumer brièvement comment la Kabbalah, elle résout le libre arbitre et l'Ashgahat Pratit? La fameuse question compliquée.
Tout simplement, il y a un Dieu qui voit tout, mais qui en même temps voit et prévoit, sait ce que la personne va choisir. Notre problème, c'est seulement à notre niveau, parce que nous sommes liés et soumis au temps, alors que chez lui, le temps n'existe pas. Donc la question, elle se pose chez nous, mais en réalité, elle est fausse. Ce n'est pas une véritable question. Le seul peut-être exemple que je peux vous donner, c'est, vous avez vu la finale entre la France et l'Espagne?
Espagne.
Oui ou non?
L'Argentine, non?
L'Argentine, oui. La France et l'Argentine. Vous l'avez vu le match?
La fin. Oui.
Eh bien, le match, si maintenant je vous le rediffuse aujourd'hui, France-Argentine, maintenant vous ne l'avez pas vu, eh bien, je suis à côté de vous et je vais vous dire sans arrêt, voilà, maintenant lui, Messi, va rentrer ce but et toi, tu vas me poser la question, mais comment tu sais ? Mais en réalité, Messi, pendant qu'il est en train de jouer, lui-même, au présent, où toi et moi, nous voyons le match, il ne sait même pas qui va marquer le but. Et moi, je le sais déjà. Tout simplement parce que j'ai déjà vu le match.
Question donc, il y a un libre arbitre.
C'est le cas de le dire pour le foot, hein. Il y a un libre arbitre.
On va jouer au jeu Paris Sportif. Hein. Simcha Maïssa. Simcha, votre micro.
Simcha Maïssa.
J'ouvre le micro. Voilà. Je vais essayer. Voilà. Alors, attendez. Juste que je vous parle. Voilà.
Mettez-vous en place.
Tout à l'heure, vous avez parlé du nom de Yudke Vavke, qui dans le futur deviendra Yud-E, et répétez encore une fois. Et vous avez dit après, ça sera « je serai ». Et vous avez dit que le cube était une mise en volume de
la lettre Yud.
De la lettre Yud. Alors, moi, j'ai une question, parce que ça fait des années et des années que je dessine tout le temps des cubes. Et je décide un cube et je superpose un autre cube par le coin, par une arête.
Ok, ben, tout simplement parce que vous êtes une femme, ma chère Simcha, et que oui. Votre nature est justement de savoir mettre en volume les réflexions premières. Je vais le traduire avec des mots un petit peu plus féminins, parce que moi aussi, je vais mettre maintenant en cube ma pensée. Donc, en utilisant mon côté féminin, alors que je suis un homme, c'est tout simplement que vous arrivez à aller un petit peu plus en profondeur et mettre des mots et des formes sur des notions qui sont un petit peu furtives. Donc, développer ce sujet, et ça veut dire que vous êtes tout simplement capable de mettre des mots, de mettre des images, de mettre des degrés visibles sur des notions qui nous dépassent.
Sur une abstraction, en fait.
Exactement.
Mais la question que je voulais poser par rapport au cube, c'est qu'une fois qu'il y a cette mise en volume en cube, vous savez que dans un cube, on peut avoir au moins deux visions quand on regarde un cube. Donc, ça veut dire que même ce nom-là, dans le futur, il sera aussi à appréhender de façon différente selon les gens.
Tout à fait, ça sera toujours la même chose. On ne sera jamais dans l'uniformité, on sera toujours dans l'unité, mais pas dans l'uniformité.
Merci, merci Ravioué.
Alors, il reste 3 minutes. Dernière question de Jonathan Cossio. Jonathan.
Ça passe vite quand on kiffe.
Bonjour.
Bonjour.
Ok. Bonjour. J'ai vu beaucoup d'avis qui disaient, en prenant pour exemple le Rambam, que l'étude de la Kabbalah en soi, c'est-à-dire que ce qu'elle nous apprend sur la vie et pas forcément les termes techniques, elle était possible à acquérir avec suffisamment de connaissances et d'ouverture d'esprit, hein, un peu comme le Moré Nevouchim et ce genre de livres, quoi. Est-ce que la Kabbalah est un moyen d'acquérir une certaine chorma, ou est-ce qu'elle est intrinsèque à toute l'étude de la Torah?
Ben, c'est la même chose. Elle fait partie de l'étude de la Torah, mais bien entendu, elle est aussi une clé, elle est aussi un chemin, elle est aussi une porte par laquelle je peux accéder à une sagesse beaucoup plus profonde. D'une manière simple, on va dire que la Kabbalah, c'est l'apprentissage de la manière qu'a l'infini à conduire le monde. Donc on apprend la conduite du monde. Étant donné que la conduite du monde se fait par des filtres qu'on appelle des séphirotes, eh bien, étudier ces filtres étudier ses séphirot, c'est étudier comment Akadosh Baruch Hu conduit sa création. Donc moi aussi, si j'utilise quelque part dans mon petit niveau les mêmes formulations, eh bien, je peux conduire ma propre vie selon ses vertus divines.
Ok, je vois. Merci beaucoup.